Environ pendant une heure, le chef de l'État a répondu aux questions relatives à l'opération conjointe FRDC armée rwandaise dans le Nord Kivu, opération visant la traque des FDLR. Qu'est-ce qui a motivé cette opération? Joseph Kabila explique.
Mais il y a le noyau dur. Au fur et à mesure, ce noyau dur s'est constitué en un mouvement politico-militaire qu'on appelle aujourd'hui le FDLR, ex-FAR, peu importe le nom. La volonté du gouvernement, la volonté, les souhaits de la population, que ce soit du Nord Kivu et de la province du Sud Kivu, c'est de voir le retour de ces gens chez eux. Parce que vous êtes sans ignorer que ce soit le Nord ou le Sud Kivu, il y a des exactions de la part de ces gens, des exactions contre la population. Aujourd'hui, on parle de viol contre les femmes, les jeunes filles, au Sud Kivu comme au Nord Kivu, et la plupart de ces cas, les responsables, ce sont ces gens-là. Parallèlement à la présence des ex-FAR et FDLR sur le terrain, depuis les années 96, 17, 18, il y a eu la création de plusieurs d'autres groupes armés, tantôt par écho, tantôt ce sont les Maïmaï, éparpillés partout et sur toute l'étendue de ces deux provinces. Tantôt le CNDP, depuis 2004, 2005, et c'est précisément pourquoi en 2008, début 2008, on avait levé l'option. On avait organisé une conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les deux provinces. Il y a eu plusieurs résolutions et on devait commencer avec la mise en application. Et le mois d'août de 2008, c'était encore le déclenchement de la guerre, ou soit la reprise de la guerre. Et tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons vu, la population déplacée, population dans les camps de déplacés tout autour de Goma et la destruction. Bref, c'est ça la guerre. Il fallait trouver une solution et une solution presque définitive. Et au problème du CNDP, et au problème de FDLR, et au problème de groupes armés éparpillés partout dans les deux provinces nord et sud Kivu. Et c'est ce qui explique les opérations en cours actuellement. C'est conformément à un accord signé à Goma le 5 décembre de l'année passée et l'adoption d'un plan opérationnel contre le FDLR d'un côté et bien sûr les autres groupes armés récalcitrants. C'était une situation difficile, extrêmement difficile, une décision aussi difficile, mais il fallait qu'il y ait une solution, peut-être une solution exceptionnelle à une situation aussi exceptionnelle.
Le chef de l'État a également précisé le délai que cette opération ne doit pas dépasser. Il a par ailleurs tablé sur quelques résultats constatés sur le terrain. On l'écoute.
Au bout de 15 jours, c'est en principe d'ici le 10 février. Dans 15 jours, on fera l'évaluation de cette opération. Quel est le délai à ne pas dépasser? Certainement le mois de février. Mais le résultat sur le terrain, c'est ce qui compte. L'opération, oui. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Alors, depuis le début de l'opération au Nord Kivu, le gouvernement a récupéré presque toutes les positions qui, jusque-là, étaient sous le contrôle du CNDP. Le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Et en principe, aujourd'hui ou demain, c'est la réouverture du poste frontalier de Bounagan. Deuxième point, ou soit résultat sur le terrain, depuis deux jours, on a levé l'option pour l'intégration rapide de ces gens du CNDP, et pas seulement le CNDP et les autres groupes armés, Pareco, Maïmaï, au sein des forces armées, et par la suite, le brassage. Tertio, comme résultat sur le terrain, c'est la réouverture de voies d'accès à partir de Goma, vers le nord, à partir de Goma vers Masisi, bien sûr vers Walikale, et de Goma vers le sud Kivu, pas nécessairement par le lac, mais par route, en passant par Sake et jusqu'à Bukavu. Pas trop comme résultat, c'est le retour progressif de la population qui jusque-là était entassée tout autour de Goma dans les camps de déplacés. Est-ce qu'il y avait de la résistance? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a pris des risques? Oui, certainement. Est-ce qu'on va réussir? Oui, je pense. Et ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Je viens de le dire, le résultat doit être, à mon humble avis, le retour de la paix et la stabilité dans ces deux provinces, le Nord et le Sud Kivu.
Laurent Kunda doit-il être extradé en RDC? Et quel sort réservé à Bosco Ntaganda qui est sous mandat de la Cour pénale internationale?
La réponse est oui. La réponse est oui. Mais c'est un processus. Ce n'est pas un sac d'haricots ou de maïs. C'est un monsieur, il s'appelle Laurent Kunda. Alors il y a un processus politique, diplomatique avant tout, et certainement sur le plan de la justice, voire l'extradition et tout ça. Mais on y travaille. Bosco Ntaganda, je crois bien que dans la région ici, le continent et d'ailleurs dans le monde, la coopération de la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale a toujours été exemplaire. Il n'y a pas un seul pays qui a coopéré avec la Cour pénale internationale comme nous, la République démocratique du Congo. Mais le Congo, c'est un pays indépendant et souverain. Alors le choix ici, le choix à faire, l'option à lever, c'est entre la justice internationale, expéditif ou non, et la paix, ou soit de la stabilité, aujourd'hui et tout de suite, et maintenant. Pour la population du Nord Kivu, le Sud Kivu, le retour de se déplacer tout autour de la ville de Goma, la reprise économique, le début de la reconstruction. Et pour moi, le choix est clair. Et à ce sujet, on est déjà fort avancé. Le choix est clair dans le sens qu'on a déjà levé cette option. L'option pour nous, c'est la paix, la stabilité et la sécurité pour notre population. C'est ça l'essentiel pour le moment. Toute autre action qui mettra en cause cette option-là, c'est une option à écarter et larguer.
Le président s'est également exprimé sur ce qu'on a qualifié du plan Sarkozy et de l'éventuelle exploitation en commun des richesses de la RDC.
Ce n'est pas au président de la République ici d'engager la polémique avec un autre chef d'État, pas du tout. Mais le président Sarkozy sera de passage ici, en visite ici, fin mars. Alors ça sera l'occasion pour vous, n'est-ce pas, de poser la question. Et il vous donnera certainement la réponse, il va vous expliquer exactement ce qu'il avait dit. Mais si vous voulez bien, le Congo est un pays indépendant et souverain. Et les décisions se prennent ici, à Kinshasa, ce n'est ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à Washington. L'exploitation des richesses au niveau de la frontière, il n'y a pas de richesse au niveau de la frontière. Il faut quand même dire la vérité à notre population. Est-ce qu'il y a le diamant? Est-ce qu'il y a le coltan? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la frontière commune? Il n'y a pas de richesse. Il y a le gaz, oui. Il y a le gaz dans le lac Kivu. Et je note que les Rwandais, ils ont déjà commencé l'exploitation de leur côté. Et certainement que le moment venu, le Congo va aussi exploiter le gaz de notre côté de la frontière. Mais entre les deux pays, et d'ailleurs trois pays de la région, il y a ce qu'on appelle la CPGR. Et c'est dans ce cadre-là que la coopération entre les deux, trois pays va se faire. Mais au niveau de la frontière, je ne vois pas le diamant, le coltan, le pétrole, non. Alors, s'il n'y a pas de diamant, l'or non plus, il n'y a que le volcan. Partage le volcan, alors, je ne vois pas les richesses à partager. Mais écoutez, en conclusion sur cette question, je crois bien que tout ce qui doit se faire en République démocratique du Congo, il faut que ce soit sur base de nos lois et des règlements.
Dans la seconde partie consacrée aux cinq chantiers, le chef de l'État s'est dit impatient car les travaux n'ont pas encore pris la vitesse des croisières. Les mines congolaises vont-ils pouvoir être en mesure de continuer à financer les cinq chantiers? Réponse avec le président de la République.
Je crois bien que oui. Je crois bien que oui. Parce que jusque-là, le prix du cuivre, la tonne, c'est combien? Vous êtes économiste, monsieur? Jusque-là, c'est entre 3 000 et 3 200 dollars la tonne. On est toujours dans le bon, mais presque à la limite. Alors, sur ce plan-là, le financement des chantiers, il n'y a pas de problème. Mais la crainte ou la peur, je crois bien que c'est que faire pour que nous puissions diversifier notre économie. Il n'y a pas que le cuivre, il n'y a pas que le diamant. Et d'ailleurs, le diamant aujourd'hui, le marché n'existe pas. Hier, le carat de diamant se vendait à combien? 150-200 $. Aujourd'hui, c'est $16 le carat. C'est ce qui explique la situation de la MIBA. Ce n'est plus rentable, le diamant. C'est ce qui explique la situation à Chicapa, Kananga et ailleurs. Alors, il faut diversifier. Et diversifier l'économie, nous pensons qu'il faut aller vers l'agriculture. C'est ça la base, c'est ça la fondation. On a oublié l'agriculture dans ce pays depuis très très longtemps. Et il y a les efforts dans ce sens-là, avec la mécanisation de l'agriculture, c'est ça l'objectif. La mécanisation de l'agriculture, je vous ai toujours parlé de ces 700 tracteurs qu'on vient de réceptionner. L'année prochaine, on fera la même chose, et en 2011, et pourquoi pas au-delà.